Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Monsieur Page, bonjour.
Salut Mathieu.
Bon, nos éphémérides du mois de mai, pour la dernière fin de semaine du mois de mai, parlons des Illuminati.
Oui, effectivement, on ne pouvait pas finir le mois de mai sans évoquer les Illuminati. Ici, on est vraiment dans l'univers de la conspiration, puis je te dirais la conspiration au superlatif. Donc, qu'est-ce que c'est que ces Illuminati? Parce que lorsque l'on consulte la littérature occulte ou ésotérique, c'est un nom qui rebondit régulièrement, souvent. Ces Illuminati. Donc, on recule dans l'histoire. Écoute, je te ramène en 1776. On est en mai 1776. C'est l'année, je te rappelle, de l'indépendance des États-Unis. Et à ce moment-là, alors que les Américains se préparent à l'indépendance en Allemagne, en fait en Bavière, on a un type qui s'appelle Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, c'est un personnage assez surprenant. Il enseigne le droit canonique à l'Université d'Ingolstadt. C'est un individu qui en a contre les jésuites et qui en a contre le pouvoir en place. Mais il faut comprendre que l'Allemagne, à cette époque-là, il y a bien sûr ce pouvoir laïque, mais le pouvoir laïque est très fortement influencé par la présence des jésuites qui ont à peu près, qui s'impliquent à peu près dans toutes les sphères d'activité sociale. Et ce Adam Weishaupt juge qu'il est temps maintenant de remplacer le pouvoir en place par un gouvernement ou à tout le moins des leaders beaucoup plus progressistes. Et c'est donc en mai 1776 qu'il va créer une espèce de société secrète qu'il appelle les Illuminati de Bavière. C'est pas la première fois que le nom d'Illuminati est utilisé. Hein? Un siècle plus tôt, en Espagne, un groupe d'érudits qui s'opposaient aux doctrines de l'Église s'appelaient eux-mêmes les Illuminati avant d'être pourchassés par l'Inquisition. Donc, on voit un peu le contexte. Mm-hmm. Donc, ce Adam Weishaupt va récupérer ce nom d'Illuminati et créer les Illuminati de Bavière. C'est une société secrète. Son objectif premier, officiellement, c'est de créer des citoyens vertueux. Mais dans le fond, le but avoué de Weishaupt, c'est de renverser le pouvoir en place. Alors, à ce moment-là, bien sûr, il y a des gens qui vont adhérer un peu à l'ordre des Illuminati, au concept des Illuminati. Il faut dire que Weishaupt n'en a pas seulement contre les jésuites, il en a également contre les autres sociétés secrètes qui occupent de plus en plus de place. On pense, par exemple, aux francs-maçons ou aux gens de la Rose-Croix. Ce qui n'a pas empêché Weishaupt d'aller flirter avec ces groupes-là. Il a emprunté chez eux certains enseignements, certaines doctrines, certains rituels. Donc, on est un peu dans un amalgame de tout ça, et c'est comme ça que les Illuminati commencent à se former. C'est assez étonnant parce que l'association est un peu périclite un peu parce que Weishaupt, à cause de sa charge à l'Université d'Ingolstadt, ne peut pas participer à toutes les réunions du groupe. Et un groupe sans leader, ça va pas très bien. Donc, le groupe périclite un peu. Il y a quelques dizaines de gens qui adhèrent, mais ça reste excessivement là très ténu comme organisation. Et puis, en 1780, Weishaupt va s'associer à un type qui s'appelle Adolf Franz Friedrich Ludwig Knigg.
Ça, c'est une personne.
C'est une personne. Donc, appelons-le le baron Knigg. C'est un franc-maçon défroqué. Donc, il a quitté la franc-maçonnerie, il va rejoindre les Illuminati, et là, ben, il voit dans les Illuminati, il comprend bien que Weishaupt est un peu à la recherche de quelque chose. Il s'est inspiré de différentes organisations, sociétés secrètes qui existent là, il en a fait un amalgame plus ou moins boiteux. Alors, Knigg, lui, voit ça comme étant un terreau où il serait fertile à développer quelque chose. Et tu comprends que pour Weishaupt, c'est un peu l'association qu'il attendait. En fait, il voit en Knigg presque le sauveur. Knigg va reformater l'association des Illuminati et là, il va y donner un grand essor. Le groupe, à ce moment-là, ne compte que quelques dizaines de membres et très rapidement, on va passer à plus de 1000 membres sous l'égide de ce Knigg. Mais il y a péril en la demeure.
Et
ce péril
donc?
Est en la demeure. En ce sens que Weishaupt, lui, en dehors de ses activités à l'Université d'Ingolstadt, il écrit des textes pamphlétaires. Ici, on parle vraiment de pamphlets. Je sais qu'au Québec, les gens associent souvent une brochure, un dépliant à un pamphlet, mais un pamphlet.
Ou une circulaire.
Mais un pamphlet, c'est d'abord un écrit anonyme et souvent vitriolant qui revendique des... Alors, on écrit des pamphlets anonymes qu'on fait circuler et particulièrement des pamphlets qui sont contre les jésuites et contre le pouvoir en place. Là où il y a péril en demeure, c'est que Knigg, le baron Knigg, ne partage pas la même haine des jésuites que Weishaupt. Et quand Weishaupt lui demande d'écrire des pamphlets pour dénoncer l'infiltration des jésuites dans les pouvoirs laïcs, Knigg refuse. Et là, c'est le schisme. Peu à peu, l'organisation va se démanteler et en 1784, le baron Knigg va claquer la porte et quitter l'ordre des Illuminati, qui, il faut le dire, à ce moment-là, n'a que 8 ans d'existence.
Et là, tu parles de quoi? 1000 personnes?
1000 personnes à peu près. Okay. Mais la même année, alors que Knigg quitte en claquant la porte, la même année, le grand électeur de Bavière décide de rendre illégal, parce qu'il est tanné de se faire critiquer, le grand électeur de Bavière, c'est un peu l'équivalent du premier ministre. Alors, il rend illégal toutes les associations secrètes, sociétés secrètes. Donc, à la fois, la franc-maçonnerie, les Rose-Croix et bien sûr, l'ordre des Illuminati passent dans la moulinette. Ils sont rendus illégaux. Et là, bien évidemment, à partir du moment où ils sont illégaux, ça devient difficile de maintenir l'ordre. Il y a quelques individus, l'ordre va peu à peu se saborder de l'intérieur. Et il y a quelques individus plus illuminés que d'autres, c'est le cas de le dire, illuminés que d'autres. Il y a quelques individus qui vont tenter de maintenir l'ordre en place, malheureusement sans y arriver. Et puis, officiellement, l'ordre des Illuminati s'arrête en 1789.
Mais pourquoi là, aujourd'hui encore ça fait partie de la littérature de tout ce qui est complot du monde par des Illuminati?
Oui, officiellement, Mathieu, là, on n'a aucune preuve que l'ordre des Illuminati ait franchi le cap de 1789.
OK.
Mais cette date de 1789, c'est une date importante dans l'histoire de la société occidentale. C'est le début de la Révolution française.
Okay.
Et au moment où la Révolution française va se mettre en place, évidemment, on connaît tous les chambardements que ça va faire, hein, la monarchie va y passer. Plusieurs auteurs, après la Révolution française, vont jeter un regard sur cette Révolution. Et les théories du complot ont ceci d'extraordinaire. Elles rendent simples des problèmes souvent très complexes, que ce soit le World Trade Center, que ce soit la guerre en Iran, peu importe. Les théories du complot ont cette qualité de rendre accessible et facile une situation qui souvent est très complexe. Alors, quand on regarde la situation de la monarchie en France, on regarde la Révolution française, c'est un sujet qui est excessivement complexe, qui est à la fois politique, social, économique. Alors, évidemment, les gens qui regardent ça de haut disent « c'est simple, il y a eu une infiltration, on a voulu renverser le pouvoir ». Et là, on va pointer du doigt plusieurs sociétés secrètes, incluant les Illuminati. Mais les Illuminati, en théorie, n'existent plus. Et peu à peu, cette idée que les Illuminati, parce que les Illuminati, hein, aujourd'hui, c'est la quintessence des super-vilains. Hein?
Oui.
Ils ne sont plus une société secrète, ils ont infiltré les autres sociétés secrètes. Ils sont au sein de la franc-maçonnerie, ils sont au sein des Rose-Croix, ils sont partout. Un peu comme dans les années 70, on accusait les satanistes d'être partout. Là, c'est les Illuminati. Aujourd'hui, la vision que les occultistes en donnent, et je te rappelle, on n'a aucune preuve qu'ils aient survécu à 1789. Mais la vision qu'on en donne aujourd'hui, ces groupes, ces gens-là seraient composés de des héritiers de 13 familles puissantes.
Mm-hmm.
On inclut les Windsor, les Rothschild, les Hofburg, les Hofburg. Tu comprends? Tous ces gens-là seraient les héritiers de ces gens-là, 13 familles puissantes, dirigeraient l'ordre des Illuminati. Et pour ces gens-là, toute la situation mondiale ne serait rien de plus qu'une espèce de jeu d'échecs. On déplace un pion, on fait une petite guerre ici, un petit trafic d'armes là, on renverse un gouvernement par-ci, un gouvernement par-là. Et de cette manière, encore une fois dans les théories du complot, on rend un échiquier international excessivement complexe, on le réduit à une forme excessivement simple, la volonté des héritiers de 13 familles puissantes.
Parce que regarde juste l'exemple, peut-être pour aider à déboulonner ça un peu là. On parle de la puissance de la famille Windsor.
Oui.
Ça, c'est la famille royale britannique.
Oui, on en parle depuis quelques semaines maintenant.
La famille royale britannique, en termes de pouvoir, outre que symbolique, oui, elle a un pouvoir quelconque, elle a un mot final si elle décide, mais on s'entend que ce n'est que symbolique.
Absolument.
Elle n'a pas un réel pouvoir.
Non, absolument pas.
Et en tout cas, si elle utilisait ce pouvoir réellement-là, Qu'elle soit discrète, hein, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui l'ont fait concret.
Quand on regarde ça de manière critique, il y a quand même deux, trois choses qu'on peut quand même soulever comme argumentaire. C'est-à-dire que les historiens qui regardent ça disent, bon, ben ça, la vision d'une société secrète avec la poignée de main, tu sais, secrète, la toge, puis tout ça, ça, c'est une vision très infantile pour représenter le pouvoir. Imaginons, par exemple, oublions les sociétés secrètes. Imaginons demain matin, sur un terrain de golf, tu réunis les plus grands designers de mode. Poitras, Lagerfeld et compagnie. Ils sont tous là. Ben, crois-moi que si Lagerfeld dit à ses compagnons, il dit, hey, les gars, vous autres, le Paisley, aimiez-vous ça? Ben, je peux te garantir que le Paisley, l'an prochain, est en mode en maudit. Tu comprends-tu? T'as pas besoin d'une société secrète. Des gens puissants, que ce soit dans la mode, dans l'industrie de la musique, dans la politique.
La technologie.
Ces gens-là se réunissent et ils vont prendre des décisions qui vont influencer la marche du monde. Pas besoin d'être membre des Illuminati. C'est vrai pour, par exemple, mon exemple des designers de mode, mais c'est vrai également pour les réunions du G20, par exemple, le groupe Bilderberg qui se réunissent. Donc, ces gens-là, ce sont des gens bien nantis, ce sont des gens qui ont une influence politique, et lorsqu'ils se réunissent, bien sûr, les décisions qu'ils vont prendre risquent d'influencer le monde politique, le monde économique, sans pour autant faire partie d'une société secrète. C'est très infantile d'imaginer l'idée de la société secrète. Et je me rappelle, il y a quelques années, je rencontre des conspirationnistes et je lui pose la question, c'est qui ces Illuminati, les Hofburg, les Windsor, les Rothschild? Là, on me dit, oui, il y a aussi des roturiers, hein, par exemple, des puissants du monde de l'industrie de l'informatique. Bill Gates, Steve Jobs étaient membres de ces Illuminati. Et ce type-là, dans un même souffle, me disait que les grandes pharmaceutiques étaient sous le contrôle des Illuminati, incluant notamment, il me disait, c'est sûr que les grandes industries pharmaceutiques ont le contrôle, ont le vaccin ou le moyen de guérir le cancer. Mais évidemment, ils le gardent, ils préfèrent soumettre les gens à des traitements onéreux plutôt que de donner le médicament contre le cancer. Or, curieusement, depuis ce discours-là, Steve Jobs est mort, et Steve Jobs, malheureusement, est mort d'un cancer du pancréas. Fait que tu te dis, écoute, s'il était mort des Illuminati, ça avait l'air que son association l'ont laissé tomber, à moins qu'il soit sur une île avec Elvis Presley puis JFK. Tu comprends? Donc, ça devient un peu ridicule, mais pourtant, c'est un mythe qui ne meurt pas, ce mythe des Illuminati, et tout ça est né en mai 1776.
Il nous reste à peu près 2-3 minutes, pas plus, pour parler de l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre. Moi, je dois t'avouer que je pense que la première fois que j'ai découvert Christian Page dans ma vie, c'est en lien avec cette dite vidéo-là. Je me trompe pas si je dis ça?
Non, t'as tout à fait raison parce que
À Claire-la-Marche,
j'ai joué un rôle important dans l'investigation. Alors, je te ramène un peu dans le passé. On est en mai 1995 au musée de Londres. On a une petite compagnie de production vidéo, Merlin Productions, ont loué une salle pour une projection privée. Quand je dis projection privée, entendons-nous, il y a une poignée de journalistes, il y a également des gens du milieu des ovnis, donc il y a à peu près une centaine de personnes. Et il n'y a pas de narrateur, il n'y a rien, les gens sont assis et voilà, on nous envoie des images en noir et blanc, une vingtaine de minutes, où on voit l'autopsie de ce qui semble être une créature difforme. Et puis là, on nous annonce, cette compagnie, Merlin Production, qui est dirigée par un type qui s'appelle Raymond Santilli, annonce qu'ils ont mis la main sur des images montrant l'autopsie d'un extraterrestre. Ce Raymond Santilli raconte une histoire un peu cousu de fil blanc. Il est allé l'année précédente aux États-Unis à la recherche de vieux films montrant Elvis Presley avant qu'il devienne le roi du rock and roll. Et en cours de ses pérégrinations aux États-Unis, il est tombé sur un journaliste, pas sur un journaliste, pardon, mais sur un caméraman qui lui dit « C'est vrai que j'ai filmé Elvis Presley au début de sa carrière, 1952-53, mais également avant de couvrir l'actualité artistique, je travaillais pour les militaires. J'étais caméraman militaire et en 1947, j'ai filmé l'autopsie d'un extraterrestre. »
Le gars est chanceux, il y en a des affectations.
Et là, il raconte, il dit, toujours selon la version qu'offre Harry Santilli, il dit « Alors que je travaillais pour l'armée, je filme donc cette autopsie et après l'autopsie, je développe les films, mais... » incroyable, l'armée ne réclame pas les bobines. Donc, le type garde ses bobines de film 16 mm sous son lit dans une boîte en attendant éventuellement que le département de la Défense les réclame. Et c'est là qu'il rencontre Santilli et accepte de vendre les images à Santilli. Alors, Santilli présente ces images-là au monde et tu as tout à fait raison. Automne 1995, les réseaux du monde entier se partagent ces fameuses images. Claire Lamarche va faire notamment deux spéciaux télé sur cette histoire de l'autopsie de l'extraterrestre. Dans un premier temps, elle présente l'autopsie. Dans un deuxième temps, Il y avait eu une offre faite par les Twin FX, les frères Gosselin, ouais, ouais. qui se spécialisaient dans des effets spéciaux, qui disaient, on peut vous montrer que c'est assez facile de faire ça. Et il y avait, déjà à ce moment-là, il commençait à, comme on dit, ça commençait à branler dans le manche. Moi-même, personnellement, parce que Ray Santilli disait, j'ai soumis des bobines à des analyses, j'ai fait faire des tests. Moi, j'avais retrouvé chez Kodak, en Angleterre, la personne qui avait reçu les fameuses bobines en question. Et ce type, dans une lettre, donc un document écrit, donc une preuve écrite, il disait, ce que j'ai reçu, je n'ai reçu finalement que l'amorce du film. Donc, un petit bout de film, donc un bout de pellicule sur lequel il n'y avait aucune image. Et j'ai analysé cette amorce-là. Mais c'est une amorce qui, oui, c'est vrai qu'elle pouvait dater de 1947. Mais comme il n'y avait pas d'amorce, comme il n'y avait pas d'image, ça pouvait venir de n'importe quel vieux film de Charlie Chaplin, Laurel et Hardy ou peu importe. Et c'est ce que Santilli, il faut se rappeler, Merlin Productions, la compagnie de Ray Santilli, commercialisait des vieux films d'époque. Donc, elle pouvait venir de n'importe quelle bobine d'un vieux film. Donc, tout ça commençait à sentir le rossi. Et éventuellement, en 2006, Raymond Santilli, on ne tue pas la poule d'or, Raymond Santilli avoue que tout ça est une fraude, que tout le film de l'autopsie de l'extraterrestre a été tourné dans un appartement de Londres. Les comédiens sont quelques amis à lui. Ils avaient utilisé un mannequin avec des organes de mouton pour faire croire à un extraterrestre. Mais Santilli ne lâche pas le morceau et il prétend, il dit, c'est vrai que le film est une fraude, mais j'ai bel et bien vu un vrai film d'un extraterrestre qui se faisait autopsie. J'en ai même eu des images, mais elles ont été tellement mal conservées que la pellicule s'est désagrégée et je n'ai pas pu exploiter ces images. Donc, j'ai refait le film de l'autopsie d'extraterrestre.
J'aurais pu le dire au départ.
À partir de la mémoire que j'avais des images. Mais évidemment, tout ça sans la fraude. Et Santilli, bien sûr, a empoché les millions sur un film d'une vingtaine de minutes qui ne montrait rien d'autre que l'autopsie d'une créature en latex.
Monsieur Page, merci infiniment. Salut au passage ton ami Jean Cazot aussi, qui avait discuté de ça avec toi.
Oui, absolument, on était sur le panel. Jean Cazot était, on le sait, beaucoup plus féru d'extraterrestres que je le suis. Mais en fait, tous les deux, on était d'avis au départ que le film sentait la fraude.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.